Panhygiénique.
Yves Kessaris, Patrick Verdrenk et Catherine Verist.
Ici Jennifer Claassens, à l'antenne. À côté de moi, il y a Monsieur Albert Leblanc. Je vais lui demander quelques questions et ce qu'il aime. Bonjour monsieur, comment ça va?
Oui, ça va madame, mademoiselle, excusez-moi. Oui, ça va très bien, oui.
Ah, moi aussi ça va très bien. Et qu'est-ce que vous aimez en particulier?
Comme boisson. Ah, moi, j'aime bien ma petite choppe. Tu sais, ma petite choppe, c'est ma petite bière, comme les Belges disent. Comment les Belges, moi aussi je suis Belge, mais vous voyez, comme vous vous dites, une bière, est-ce que c'est ça? Oui, une bière. Ben nous, les Bruxellois, ils disent une petite choppe, oui.
Ah oui. Moi j'ai déjà entendu parler de ça, mais je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire, choppe. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez été faire ce matin, depuis ce matin?
Oh, depuis ce matin, j'ai été au café et j'ai bu au moins 5 bières et puis j'ai arrêté la bière et puis j'ai commencé au whisky. Oui, whisky coca. Oui, ça aussi j'aime bien, whisky coca. Et après, j'ai bu un petit café, un tout petit, oui. Un tout petit, oui.
Ah oui. Moi, j'aime pas le café et ni la bière et ni le whisky coca parce que c'est très dégoûtant. Je préfère l'eau, n'est-ce pas pétillant. C'est plus léger, tendre. Et qu'est-ce que vous aimez encore en plus pour manger?
À manger, j'aime bien les frites, oui. Les frites, c'est pour les bruxellois. Oui, les frites avec une bonne saucisse. Demandez ça une fois à votre maman, hein. Oui, je la connais bien, votre maman. Oui, elle est vraiment très, très gentille, hein. Oui, oui, c'est vrai, elle est gentille. Elle est un peu...
Elle est un peu quoi?
Elle est un peu... Un peu barjo, vous savez.
Ah! Voilà, une tarte de ma part! Alors, monsieur Albert Leblanc, ça vous a appris ce que vous dites? Monsieur Albert Leblanc, avec votre barjo ou je ne sais pas quoi, votre bruxellois, hein?
Oui, mais dis, hey, vous m'avez donné une tarte et vous vous êtes pas gêné, hein? Vous êtes folle?
Non, je suis pas folle. Vous devez pas insulter ma mère. C'est compris?
Oui, mais c'est gay. Oui, mais vous m'emmerdez, hein? Hey, vous êtes une impétente avec vos machins soniques, là. Je sais pas de quoi. Vous m'enregistrez et puis vous me donnez une claque.
La valse des watts, watt, 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 watt.
Chapitre 69. La marchandisation de la bande FM.
Tout le monde se plaint de ce retard du plan de fréquence actuellement. Mais finalement, du côté des réseaux, est-ce qu'il y a vraiment intérêt à voir arriver ce plan de fréquence? Parce que dans la réalité, il dépasse les bornes même qu'un plan de fréquence favorable à leur égard pourrait leur attribuer.
Ah, je ne sais pas qui va gagner avec le plan de fréquence. C'est un peu ça la vraie question. Bon, les réseaux vont sans doute y perdre en quantité, peut-être pas en qualité de diffusion, parce que le plan de fréquence va écrémer. Donc une série de fréquences occupées actuellement ne le seront plus, et donc les possibilités de diffusion dans de meilleures conditions seront plus simples. Mais bon, c'est sûr qu'en termes d'implantation, il y aura peut-être moins de lieux d'implantation, il y aura moins de réseaux aussi. Donc ça, certains en souffriront. Mais je ne sais pas s'il n'y aura pas d'autres qui vont en souffrir aussi, même si les petites radios ou les radios associatives aujourd'hui n'ont pas une situation aisée. je ne suis pas sûr qu'elles auront une meilleure situation après le plan de fréquence. Et donc, pour l'instant, on est dans une sorte de no man's land où, en tout cas, tout existe toujours, ce qui est déjà pas mal par rapport à une situation où, finalement, il pourrait y avoir des décisions plus drastiques. Par exemple, il y a une chose toute bête, ça ne concerne pas beaucoup de radios, mais ça en concerne une ou l'autre, c'est que les futures autorisations ne prévoient plus de partage de fréquences. Et que donc, ou bien on occupe l'antenne 24 heures sur 24, ou bien on n'existe plus dans le schéma. Donc une série d'initiatives qui étaient plutôt associatives, des initiatives de type associatif ou socioculturel dans certaines localités ou quoi, ne pourraient peut-être à l'avenir ne plus avoir de possibilité même d'avoir accès à une fréquence parce qu'elle ne répondrait plus aux conditions de base. Donc la situation actuelle dans laquelle il y a un état de fait permet en tout cas aux choses d'encore continuer pendant un certain temps. Si maintenant il n'y a plus qu'une fréquence, un opérateur, ça tend vers une logique qui est celle de l'entreprise radiophonique, à tout point de vue, et non plus à celle d'une logique où c'est la possibilité d'émettre et de s'exprimer qui est l'élément déterminant à la base.
La communauté française, qui dépense plus qu'elle ne produit, détient un secteur qui est celui de la fréquence modulée, si tu veux, commerciale, détient un secteur où le CSA, où le gouvernement a un pouvoir sur une rentrée d'argent, une rentrée financière pour l'État. Et donc, le marché, la fréquence modulée, ça, c'est quelque chose qui doit rapporter du fric. Et qui doit, je veux dire, qui doit être, qui est à la fois source d'investissement, qui est une source de revenus, plutôt, excusez-moi, source de revenus pour l'État, mais qui est une source d'investissement aussi pour la création de multinationales. Donc, c'est ça la conclusion, c'est que je veux dire, la communauté française s'est comportée comme le fédéral s'est comporté avec la privatisation de la RTT avec Belgacom. On doit lancer un marché concurrentiel, et ça, c'est la directive européenne, tout ça. C'est une directive au niveau européen. D'avoir un marché, de créer un marché concurrentiel et compétitif. Producteur d'emplois, producteur de biens, etc. etc. Donc, je veux dire, si on avait pris l'histoire d'une autre manière, on imagine qu'ils avaient laissé toutes des radios locales comme Radio Panique, des radios qu'ils auraient financées, comme les TV locales et communautaires, eh ben, ça aurait été une perte pour l'État, à la fois parce qu'il devait donner des subventions à ces radios pour les faire exister comme les TV locales et communautaires, et en même temps, ça n'aurait pas permis à des marchés de s'implanter, des marchés sur lesquels, bien sûr, l'État prélève des impôts, donc sur lesquels ça apporte de l'argent à l'État, où il y a aussi un prélèvement sur les recettes publicitaires. Les ondes hertziennes appartiennent, si tu veux, le parc de fréquence appartient à l'État et l'État le vend, quoi, à des clients, à des sociétés. C'est comme le mobilophone, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence.
Les ministères de l'audiovisuel n'ont plus rien à voir avec la culture.
Non. Ils parlent de patrimoine culturel. Oui, je veux dire, la notion de patrimoine culturel, ça c'est le service public. Hein, donc tu vois le ministre Miller, donc sa première préoccupation. Donc je crois que c'est la politique, c'est vraiment une politique. C'est ça le problème, c'est qu'ils sont dans une vision dualiste classique au niveau de l'audiovisuel. C'est que donc on a d'abord la vision monopolistique de la chaîne publique au départ, et puis ils sont passés à une vision dualiste où il y a cette chaîne publique qui doit assurer les rôles de service public et d'intérêt général et d'intérêt culturel, jouer, donc remplir tous les rôles, et ils essaient de faire encore jouer le, si tu veux, ils veulent que toutes les missions que la particularité que revendique et que possède les radios associatives, et ben, quand tu vois les politiques qui sont décidées pour la RTBF, le politique veut que la RTBF joue ce rôle là de proximité, d'interaction avec le citoyen. Bon, ça, il y a eu à l'époque, déjà, ils avaient déjà réagi dès l'apparition des radios libres, avec Radio 21, avec les francophones ont toujours voulu avoir des centres régionaux. Donc il y avait un caractère proximité, un caractère, bon, ils ont apporté le format musique et news, etc. Et ils sont toujours dans cette dynamique-là. Je veux dire, ce que nous, on demande, j'ai l'impression que quand on le dépose au niveau du ministère du visuel, ils voient le dossier, pour eux, c'est l'RTBF qui doit jouer ce rôle-là. Mais ça, pour beaucoup de gens. Et donc, le marché, la fréquence modulée, ça, c'est quelque chose qui doit rapporter du fric.
Land, les nuits de Berthold, nuit et jour à Bruxelles, onde à Libre et onde de choc.
Les gens de panique.
Ondulation.
Comme tous les mercredis sur Radio Panique 105.4 jusque minuit, c'est le mix de Lorenzo. Et là, on écoute un remix de Loose Joint par les Master at Work, un dub inédit qui vient de sortir sur West End. Voilà, à plus tard.
I'm in love dancing. I'm in love dancing. I'm in love dancing. You call me love dancing. Is it all over my face? You call me love dancing. I'm in love dancing. Is it all over my face? You call me love dancing.
Lorenzo Ottati.
Lorenzo, d'abord, je vais te demander de me raconter comment tu es arrivé à Radio Panique.
Eh bien, c'est un peu bizarre. Donc, je fais l'émission avec un ami à moi qui s'appelle Benoît. Et c'est lui qui a rencontré des membres de Radio Panique sur un forum internet, sur IRC. Et ils ont commencé à discuter. Et les personnes de Radio Panique se sont rendues compte qu'il écoutait de la hausse et qu'il voulait faire... que ça l'intéressait, et donc on nous a proposé de faire une émission à Panique. C'était au moment où il y avait des grands bouleversements dans la grille horaire, et il y avait de la place à prendre, et ils voulaient faire des émissions avec des musiques électroniques le week-end. Et donc de là on a commencé, c'était il y a 3 ans, on a commencé le mercredi d'abord, de 5 à 7.
Et avant d'avoir ce contact avec Radio Panique, t'avais déjà pensé à faire de la radio?
Pas du tout. Ça m'est tombé dessus comme ça et j'ai trouvé que c'était une super idée. Et voilà, ben on est toujours là. Et c'est une des choses les plus importantes en musique pour moi, c'est venir le vendredi à la radio. C'est ce qu'il y a de plus important.
Faire ton émission.
Et faire mon émission, ouais, ouais.
Mais avant de faire ton émission en radio, tu faisais déjà des choses en musique?
Oui, je mixais déjà dans des bars, au Sonic et tout. Au Pablo, au Dalise, toutes des choses comme ça. Mais j'avais jamais pensé à faire de la radio. Je croyais pas d'ailleurs que c'était possible, sans expérience, d'accéder comme ça à une émission. J'ai découvert Radio Panique et l'esprit assez ouvert qu'il y avait. Et voilà.
Elle consiste en quoi exactement l'émission, si tu vas la décrire?
Alors l'émission, c'est les nouveautés de la semaine en vinyle, en house, et des invités, des guest DJ qui viennent une fois toutes les 2 semaines environ. Et ouais, voilà. la qualité, c'est la chose, la première chose, et l'info sur l'info nocturne, des soirées, tout ce qui va se passer le week-end, voilà.
Donc
c'est
on
ça.
Vous entend mixer, on vous entend parler.
Voilà, c'est ça. Il y a un mix qui commence à 10h30 et puis il y a l'agenda, des places à gagner, des choses comme ça. C'est une émission qui s'adresse plutôt à des gens qui connaissent un peu, qui s'y connaissent en house. C'est pas, disons, grand public, quelqu'un qui n'a jamais entendu, il va peut-être aimer la musique, mais il va pas savoir exactement de quoi on parle.
Enfin, est-ce que tu as l'impression de faire de la radio de création ?
De création, mais pas au sens propre du terme, disons qu'on ne crée pas on ne fait pas de montage et des choses comme ça, mais on essaye quand même de créer, disons, une atmosphère ou un esprit dans l'émission. Voilà, mais c'est pas vraiment de la création au sens propre. Oui, on crée des mix, mais c'est pas du montage radiophonique, quoi. Non. As long as I've got you, I've got enough. Just as long as I've got you, wow, the moon is love. Just as long as I've got you, I've got enough.
Et que personne ne l'oublie.
Les grosses radios deviennent de plus en plus importantes, elles dévorent tout sur leur passage, et cette attribution de fréquences d'ondes, ici en Belgique, je crois qu'un pas vers le capitalisme est vraiment marqué, et c'est le plus riche qui mange le plus pauvre. Et Radio Panique, si elle ne se défend pas bec et ongles, elle risque de se faire manger par le grand méchant loup.